Je sais pas si vous avez lu ce papier d'Éric Thibault dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Il parle de deux criminels endurcis qui ont comploté plusieurs meurtres durant la guerre des motards. Ben, écoutez, la Commission des libérations conditionnelles du Canada pense qu'ils sont revenus dans le droit chemin. Dans le cas de Richard Dick Mairan, c'était un membre influent des Hells Angels du chapitre élite, en fait, nomade. La Commission des libérations conditionnelles dit « Vous avez tiré un trait sur votre ancien mode de vie. » Il paraîtrait là, que Richard Dick Mairan y vivrait aujourd'hui là, avec la philosophie « Un esprit sain dans un corps sain ». Pour ce qui est de Raymond Bouchard, là, juste pour vous situer un petit peu, là, c'était le complice du tueur à gages, Gérald Galland, dans 16 meurtres. Ben, Raymond Bouchard, selon la Commission des libérations conditionnelles, il aurait changé sa vie. Il est maintenant abstinent de toute drogue et il est prêt maintenant à vivre dans la collectivité. Alors, dans les deux cas, ils passent leur dernier tiers de peine d'incarcération à domicile et puis leurs conditions de liberté, de mise en liberté, ont été assouplies par la fameuse Commission des libérations conditionnelles. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'on doit les croire? Est-ce qu'on doit croire des personnes comme ça, là, qui disent, après des années et des années et des années, des dizaines d'années de criminalité, est-ce qu'on peut les croire quand elles disent « j'ai changé de vie, je ne suis plus la même personne ». Daniel Benson a été condamné à perpétuité pour meurtre. Il a passé 17 ans en prison. Il travaille maintenant à la réhabilitation des criminels. Il est notamment conseiller en intervention à la mission Old Brewery. Monsieur Benson, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Benson, vous, là, vous croyez que c'est possible pour quelqu'un de changer de vie puis de devenir une meilleure personne, même si ça fait des années et des années que tu as vécu de la criminalité puis que tu as même été un assassin?
Ah, moi, j'y crois fermement, M. Dreville. Moi, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années pour le service Option Vie, où j'accompagnais des gens qui étaient principalement des sentenciés à vie, donc des meurtriers, là, on va les appeler comme ça, autant des hommes que des femmes. J'ai accompagné, entre autres, des gens qui faisaient partie de bandes criminelles, et j'ai pu assister au cours de ces longues années-là, parce qu'il y en a que j'ai accompagné quand même pendant presque 12 ans, que ces gens-là changent, évoluent, réfléchissent aux actes qu'ils ont commis. Puis vous savez, quand on met quelqu'un au pénitencier avec une longue sentence, il y a un travail qui se fait avec ces gens-là. Là. C'est pas de mettre quelqu'un en prison, de fermer la porte, puis de le laisser là, puis d'attendre que le temps passe. Là. Il y a des objectifs à atteindre. Il est évalué par des psychologues, il est suivi par des gens qui font des programmes thérapeutiques avec eux. Puis il y a une réflexion personnelle qui s'installe aussi. Vous savez, là, quand on vit l'enfermement, quand on vit la prison, ça nous amène à réfléchir. Là, quand la porte de la cellule la referme, puis tu es tout seul dans une salle de bain, là, parce que c'est à peu près la grandeur d'une salle de bain, une cellule, là. N'importe quel être humain là, va passer par une réflexion. Il y en a pour qui ça va très rapidement. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Mais moi, je vous dis que j'ai vu des gens qui ont changé d'une façon drastique durant des années de prison, puis qui sont des gens qu'on peut côtoyer dans la rue, puis qui travaillent, puis qu'il n'y a plus de danger pour la société, puis qui ne recommettent probablement jamais plus de crimes de leur vie. Je vous dis pas que le risque est à zéro. Le risque zéro n'existe pas, là.
Oui, mais M. Benson, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont sceptiques. Moi, je dois vous dire, je le suis un petit peu. Puis en même temps, je veux y croire, moi. Je veux croire que la réhabilitation, ça existe et que c'est pas juste marginal, que c'est pas juste exceptionnel. Je vais vous poser une question embêtante. Mettons, là, vous avez travaillé avec les criminels les plus endurcis, là, OK? Vous travaillez toujours avec eux. Mettons sur 10 qui ont fait de la prison. Parlons de meurtriers, OK? Des gens qui ont tué.
Oui.
Sur 10 qui sortent de prison, il y en a combien qui... ne retourneront pas dans le crime. Selon votre expérience à vous, là, je parle pas de Statistique Canada, votre expérience à vous, il y en a combien des gens qui ont tué, qui sont retrouvés en prison pour meurtre, ils sortent de prison, il y en a combien qui vont revenir, mettons, dans le droit chemin, puis il y en a combien qui vont retourner à un moment donné dans la criminalité?
Écoutez, moi, selon mon expérience, là, ce que j'ai vécu avec les gens que j'ai accompagnés, là, je vous dirais que la très grande majorité, là. Puis là, je parle d'au-delà de 90% des gens que j'ai accompagnés, qui ont fait des lourdes sentences, en particulier pour meurtre, ne sont pas retournés en prison. Et s'ils sont retournés en prison, ce n'est pas pour avoir commis un autre délit, c'est pour avoir enfreint une condition de libération conditionnelle. La majorité du temps, ce n'est pas pour un nouveau délit, c'est pour avoir enfreint une condition, pas respecter un couvre-feu, avoir bu une bière quand tu as une condition de non-consommation, des choses comme ça. Mais pour des délits, je vous dirais que dans le cas particulier des sentences à vie, des gens qui purgent de très longues sentences, c'est le taux de récidive le plus bas. Puis ça, c'est prouvé au niveau statistique. Puis dans la réalité, c'est ça aussi.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans leur tête?
Bien, vous savez, M. Drainville, quand on passe 10, 15, 20 ans de sa vie en prison, là, on réfléchit à ça, là. La perte de la liberté, vous savez, c'est quelque chose de très, très... la liberté, c'est important pour tout le monde. Puis je vais vous donner un exemple très simple, M. Drainville. Vous avez des enfants?
Oui, j'en ai trois.
Bon, ça vous arrive-tu de leur dire, à soir, tu restes dans la maison, tu sors pas, tu vas pas voir tes amis?
C'est clair.
Ils ont accès au frigidaire, ils ont accès à des jeux, à des ordinateurs, à le confort d'un foyer. Et ce soir-là, vous êtes le pire goujat de la terre parce que vous les empêchez de sortir de la maison.
C'est effrayant ce que je suis à ce moment-là.
La privation de liberté, M. Drainville, quand on ne l'a pas connue, on ne peut pas savoir ce que ça fait sur un être humain.
Vous venez d'avoir un petit moment d'émotion, ça se peut-tu?
Oui, ça se peut, parce que la liberté, c'est important. Moi, j'ai passé 17 ans de ma vie en prison, M. Drainville. Puis je vous dis que je ne retournerai pas en prison jamais.
Vous avez été condamné à la prison à vie pour le meurtre du conjoint de votre mère. Vous aviez 19 ans quand vous avez été condamné à vie. Vous aviez 18 ans quand vous l'avez tué, n'est-ce pas?
Oui, oui, exactement.
Puis vous ne vous pardonnez pas ce meurtre-là. Encore aujourd'hui, là, vous êtes...
Puis je vous dirais, M. Drainville, quand on enlève la vie à quelqu'un, la pire peine à laquelle on fait face, ce n'est pas de passer 10, 15, 20, 30 ans en prison. C'est qu'on réfléchit à ça et on porte ça constamment avec nous. On le sait, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait. Vous savez, les êtres humains sont les seuls qui connaissent vraiment leur vérité à eux, là, et qui portent ça. Et c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, ça, M. Drainville. Mais on doit apprendre à vivre avec ça.
Je comprends. Mais quand on parle des deux messieurs, là, Dick Mérand puis Raymond Bouchard, là, ça, c'est des gars là, qui ont frayé. Dans un cas, ils étaient avec les Hells. Dans l'autre, ils étaient avec la gang de l'Ouest qui était complice avec ou partenaire avec les Rock Machines pendant la guerre des motards. On nous dit que c'est pas possible de sortir des motards. Qui ne permettent pas de sortir. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça?
Ce n'est pas vrai. Puis je ne vous parlerai pas, M. Drainville, de ces deux personnes-là parce que je veux respecter leur cheminement pour leur vie privée. Par contre, je peux vous dire que moi, j'ai accompagné des gens qui étaient membres de gangs criminalisés et qui sont sortis de ces gangs-là et qui sont passés à autre chose dans leur vie.
Ils te permettent de sortir. Ils te permettent, les Hells, ils te permettent de sortir. Mettons que tu as été un dirigeant important des Hells, tu fais ton temps en prison. Puis tu peux leur dire « Bye bye mon cowboy, je jette mes patchs, je me fais enlever mes tatous, puis je redeviens un citoyen ordinaire, entre guillemets. »
Monsieur Drainville, vous savez, une bande là, de gens criminalisés, là, la première chose qui est importante pour eux, là, c'est de ne pas attirer la chaleur des autorités. Pensez-vous que c'est préférable pour quelqu'un qui dit « Moi, là, j'ai été dans votre gang pendant 15 ans, puis je veux me retirer là, parce que je suis un sentence à vie, puis je vais être en surveillance tout le temps de ma vie. » Pensez-vous que ces gens-là vont dire « Non, non, tu gardes tes patchs, mec, tu sors de prison, tu reviens avec nous autres pour amener la chaleur de la surveillance d'un agent de libération conditionnelle puis de la police sur le groupe? » Vous savez, M. Drainville, les groupes criminalisés, là, c'est d'abord la philosophie de ces gens-là au niveau psychologique, ce sont des hommes d'affaires, ils veulent faire de l'argent. Donc, ils veulent pas avoir des éléments qui vont freiner ce désir-là qu'ils ont. Donc, le plus d'éléments qui peuvent nous empêcher d'arriver au résultat, on va les tasser.
Ça, je trouve que vous venez de me donner un très, très bon argument. Là, j'achète ça.
Bien, ça, c'est
quand vous
ça,
dites,
la
là,
réalité.
C'est du monde qui sont là en business, là. Ça, c'est un fait. C'est vrai que c'est des businessmen puis des businesswomen. Puis vous dites... Qu'est-ce qui peut nuire à la business, c'est l'attention des autorités. Puis quelqu'un qui a passé, qui a été condamné pour meurtre, il va être surveillé à sa sortie, du moins il va être surveillé pendant un certain temps. Donc ça peut nuire à la business.
Exactement. Puis vous savez, M. Drainville, moi, je collabore avec des professeurs à l'École de criminologie à l'Université de Montréal. Et cette catégorie de délinquants-là, là, les motards criminalisés, la mafia, au niveau psychocriminologique, le terme pour définir ces gens-là, c'est ce sont des criminels professionnels. Donc, c'est des gens qui choisissent sciemment de faire une vie dans le crime, que ça soit rentable. Même eux ne se définissent pas comme des criminels. Ils disent « Moi, je fais de la business. Si c'est pas moi qui vends la drogue, ça va être le gars à côté. » Donc, il va en vendre, elle va se vendre pareil, la drogue.
Donc, c'est un choix. En terminant, Daniel Benson, ce que vous dites, là, c'est que ultimement, là, c'est un choix.
Oui, c'est un choix. C'est toujours un choix, M. Drainville. Surtout dans ce monde-là, là, c'est un choix.
Ben, j'aurais appris ça. Daniel Benson... vous travaillez maintenant à la réhabilitation de criminels. Vous êtes notamment...
Ben, écoutez, là, je ne travaille plus avec des criminels, je travaille avec une population itinérante. Là. On ne mélangera pas les deux choses.
Non, mais j'allais pas mélanger les deux. J'allais dire que vous étiez aussi conseiller en intervention à la mission Woolbury. Puis je suis évidemment... vous faites encore du travail, n'est-ce pas, auprès d'anciens criminels, ou est-ce que vous êtes maintenant à temps plein à la mission Woolbury?
Je suis à temps plein à la mission Woolbury, mais par contre, vous savez, je collabore avec des professeurs à l'université, je suis assistant de recherche pour l'Université Laval. Mm-hmm. Je suis encore dans ce milieu-là, je donne des conférences dans des écoles au niveau de la prévention, donc je suis encore là-dedans un petit peu.
Ça a été un plaisir, Daniel Benson. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Dans un instant, mettez complot! Avec Christian Page.